Ésaïe chapitre 28. On lit Ésaïe ensemble depuis des mois, par petits coups. Parce qu'en fait, il y a des cycles. Nous avions vu au mois de janvier-février le cycle des chapitres 23 à 27, qu'on appelle des fois l'apocalypse d'Ésaïe, parce qu'il y avait tout un langage apocalyptique et ça parlait en fait même de l'aboutissement du projet de Dieu pour l'humanité, la vie éternelle pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Et maintenant, on va passer au chapitre 28, au chapitre 31, un cycle qui s'appelle des fois le livre des malheurs. Alors, petit rappel, la raison pour laquelle on lit l'Ancien Testament, il y en a deux, en particulier, il y en a d'autres, mais en particulier, il y en a deux. On voit tout le projet de Dieu se dérouler dans le temps, toute l'histoire depuis la création jusqu'à la venue de Jésus. Et puis, il y a des leçons pour nous. Bon, bien sûr, nous ne vivons pas à l'époque du royaume du Nord, du royaume du Sud, de l'Empire assyrien, etc., etc. Mais il y a des leçons spirituelles pour nous, parce que Paul dit dans les Romains que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, le livre des malheurs, et le pourquoi, j'ai dit c'est du chapitre 28 au chapitre 31, je pense que c'est le chapitre 31, le verset 1, qui dit très clairement quel est l'enjeu. Le chapitre 31 et le verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas leur regard sur le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Alors, ça c'est l'enjeu pour nous aujourd'hui. On va voir après ce cycle et quelques autres chapitres qu'on arrive à la fin de ce qu'on appelle la première partie d'Ésaïe, où Ézéchias va finalement faire confiance à Dieu. Il y a quatre chapitres historiques. Les Assyriens viennent, et puis finalement, il prie avec le peuple, il fait confiance à Dieu. Mais, il faut dire, mais comment en sont-ils arrivés là? Alors, la pensée centrale de ces chapitres, c'est ceci, comme on vient de voir. Ézéchias a fait une bêtise. Il a voulu se révolter contre la Syrie. On va dire tout seul, pas tout à fait tout seul. Il a dit, je vais le faire avec l'aide de l'Égypte. Parce qu'il y a toujours, tout au long de l'histoire, de l'Ancien Testament, ces grands empires à l'est d'Israël, la Syrie, Babylone, les Perses, donc à l'est. Et puis de l'autre côté, il y avait l'autre grande puissance, c'était l'Égypte. Et parce qu'ils ne pouvaient pas traverser le désert pour arriver en Israël, les empires qui étaient à l'est, donc venaient, ce qu'on appelle la croissance fertile, et puis descendaient du nord en Israël. Donc l'Égypte venait du sud. Et malheureusement pour Israël, les armées se rencontraient au milieu, c'est-à-dire en Israël. Et donc c'était toujours de quel côté on va faire confiance. Ils ne voulaient pas donc faire partie de l'empire assyrien, donc c'est à l'époque d'Ésaïe. Donc Ézéchias a cherché un appui en demandant le soutien de l'Égypte. Mais c'était insensé. Téméraire, imprudent, et finalement, comme on va voir, il a perdu presque tout, les villes de son pays, il n'y avait plus que Jérusalem qui tenait tête, et finalement Dieu a délivré le royaume du sud, mais attention, le royaume du nord, donc avec la capitale à Samarie, est finalement tombé entre les mains des Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, et si on était fini donc du royaume du Nord. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, le chapitre 28, il y a trois parties. Il y a une partie qui parle du royaume du Nord, il y a une partie qui parle du royaume du Sud, Jérusalem, et puis à la fin, une sorte de parabole qui m'a beaucoup parlé. Et je crois que c'est un texte qui m'a fait énormément de bien à la fin de ce chapitre, parce que finalement, on peut très facilement faire le lien entre la fin de ce chapitre et notre situation aujourd'hui. Mais d'abord, il va falloir regarder le contexte un peu historique. Donc d'abord, les versets 1 à 13 concernent Éphraïm, c'est-à-dire le royaume du Nord. Il faut s'accrocher, parce que parfois on dit royaume du Nord, parfois on dit Israël, parfois on dit Samarie, et ici ils disent Éphraïm, parce que en fait c'était la plus grande tribu du royaume du Nord. Alors je vais lire ces versets 1 à 13, et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Ésaïe 28, verset 1. Malheur à la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la vallée fertile, à ceux qui s'enivrent de vin. Voici qu'arrive, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, pareil à un orage de grêle, une tempête destructrice, à des trombes de pluie qui inondent tout. Il le jette sur la terre avec puissance. Elle sera piétinée, la couronne éclatante, dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm. La fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la vallée fertile sera comme une figue précoce qu'on aperçoit avant la récolte. À peine dans la main, elle est aussitôt avalée. Ce jour-là, l'Éternel, le maître de l'univers, sera une couronne majestueuse et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Il sera un esprit de droiture pour celui qui siège au tribunal, une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils titubent sous l'effet du vin, et les liqueurs fortes les égarent. Prêtres et prophètes titubent sous l'effet des liqueurs fortes. Ils sont troublés par le vin, ils s'égarent à cause des liqueurs fortes. Ils titubent en prophétisant, ils vacillent en rendant leur édict. Toutes les tables sont pleines des vomissements infects. Il n'y a plus aucune place intacte. Ils disent, à qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre son message? Là, il parle d'Isaïe. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la poitrine de leur mère? En effet, c'est ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le lieu du repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente, mais n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera vraiment ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient pris au piège et capturés. Bon, il faut que j'explique un petit peu, parce que il y a beaucoup de choses dans ce texte qui ne sont pas évidentes à la première lecture. Alors, malheur à Samarie, et à cause de ses dirigeants. Donc j'avais dit que c'est le livre des malheurs. Premier mot, hein. Malheur à la couronne éclatante. Là, en fait, la couronne éclatante, c'est la ville de Samarie. Parce que la ville de Samarie était située sur une colline, comme une couronne sur cette colline, avec des plaines fertiles tout autour, hein. Ils disent la couronne éclatante sur la cime de la vallée fertile. C'est le verset 1. Une belle ville, mais malheur, à cause des dirigeants qui sont des ivrognes. les versets 7 et 8 insistent là-dessus. Ils s'amusent en quelque sorte alors que la ville est en danger. La Syrie risque de venir, de s'attaquer à la ville, et tout ce qu'ils savent faire, c'est de boire. Ils boivent du vin, des liqueurs fortes. Les prêtres même, et les prophètes titubent et vacillent dans la ville. Et Esaïe n'y va pas de main morte. Hein. Même leurs tables sont pleines des vomissements. Voilà. J'ai dit parfois que les prophètes de l'Ancien Testament, on est plus proche du film sur TF1 dimanche soir que nos cultes très propres, en quelque sorte. Hein. Ils buvaient pour oublier, pour s'amuser, protéger pas la ville. Mais, dans tout cela, ils disent que Dieu est souverain. Et quand les Assyriens viennent, quand l'empereur de la Syrie arrive, le verset 2, il dit « Voici qu'arrive un homme fort et puissant de la part du Seigneur. » Ce n'était pas un accident de l'histoire. C'était de la part du Seigneur qui avait prophétisé, même par les paroles d'Ésaïe, pour dire « Si vous ne vous repentez pas, Dieu dit « Je suis obligé de vous amener en exil. » Et comme vous le savez, d'abord c'est le royaume du Nord, 722 avant Jésus-Christ, et après, un siècle et demi plus tard, un peu moins, c'était la part du Juda qui est parti à Babylone. Et c'était là-bas qu'ils ont appris que c'était grave, que l'enjeu était important. Ils sont vraiment repentis de leur idolâtrie, et le Seigneur a permis de revenir dans le pays. Donc c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu est souverain. Et il dit que à ce moment-là, la ville sera piétinée, verset 3, la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes, la fleur fanée sera comme une figue précoce. Donc ça veut dire, il y a une seule figue sur l'arbre, quelqu'un vient, il le prend, il le mange. Vite fait. À peine dans la main, il est aussi avalé. Donc quand les Assyriens viendront, ça se passera très rapidement. Je reviens au verset 5 et 6 tout à l'heure, mais je continue. Pire que l'ivrognerie, c'est l'orgueil. À partir du verset 9, c'est l'orgueil. Le verset 12 le dit. Je pense que c'est le verset 12, peut-être pas, non. Enfin, il parle de l'orgueil, en tout cas, au verset 1. La seconde 21 dit, la couronne dont ils sont fiers. Le semeur dit, en fait, le diadème qui fait l'orgueil des buveurs. Donc, ils sont orgueilleux et refusent donc l'enseignement d'Ésaïe. Il rejette son enseignement comme si c'était des babillages. Ses dirigeants ivrognes disent, au verset 9, « À qui veut-il enseigner la connaissance ? À qui veut-il faire comprendre son message ?» Et ils disent en fait que le message d'Ésaïe, c'est trop simple. C'est comme pour les enfants. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la poitrine de leur mère? Bon, dans leur orgueil, ils voudraient un prophète très complexe, qui leur donne raison. Alors que, finalement, Ésaïe, c'est simple et c'est clair. Repentez-vous. Et ça explique un petit peu ce verset 10 qui, à la première lecture, ne semble pas très clair. Je l'ai répété, il le répète d'ailleurs au verset 13. Ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Là, on peut ne pas comprendre. Et pendant longtemps, les commentateurs, ils cherchaient un petit peu à expliquer ça, en cherchant, qu'est-ce que ça veut dire, ordre sur ordre, ordre sur ordre. Et puis on s'est rendu compte, en fait, que c'était des mots qui étaient utilisés par les professeurs, par les enseignants, pour enseigner, en fait, la langue. Parce qu'en fait, la Bible en français courant le traduit très littéralement S-A, ça, ça, ça. T-A, ta, ta, ta. Et j'aime bien donc la traduction dans la Nouvelle Bible Seconde qui dit c'est, en effet, c'est B-A, ba. Donc, comme on dit en français. Donc, c'est tellement simple. Et donc, c'était des mots en hébreu, ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, qui apprenaient, en fait, aux enfants à lire. Et ils ne veulent pas entendre ça. C'est trop simple. C'est trop simple. Alors, Ésaïe dit, bon, à ce moment-là, eh bien, très bien, si c'est comme ça, Dieu va vous parler par des langues que vous ne comprendrez pas. Sous-entendez, par là, les Assyriens. Les Assyriens vont venir, et le verset 11 dit, « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. » Et pourtant, je vais revenir à ce verset, et pourtant, verset 12, Ésaïe avait dit, « Voici le lieu de repos, laissez se reposer celui qui est fatigué, voici le moment de la détente, donc de faire confiance à Dieu, mais ils n'ont pas voulu écouter. » Et donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est la fin du verset 13, « En marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit pris au piège et capturé. » Donc, ils n'ont pas écouté le message. Petite parenthèse, parce que Paul, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Paul cite ce verset 11, c'est « Par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. » Il en parle au verset 21 et 22 de 1 Corinthiens, chapitre 14. Parce que c'est dans toute une partie qui parle des dons spirituels, où Paul parle du fait qu'il y a beaucoup de dons spirituels, mais nous sommes un corps, et donc et chacun a des dons différents pour l'édification du corps, et dit que, en fait, ce qui est encore mieux, c'est l'amour, donc 1 Corinthiens verset 13, et puis il revient à la différence entre la prophétie et les langues. Et il dit donc, la prophétie est supérieure parce que les gens le comprennent. Et à ce moment-là, il dit, versets 21 et 22, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, mais la prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. » Donc, je rappelle la définition de prophétie dans 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Donc, avec des paroles que l'on comprend. Et il dit à ce moment-là, si les gens ne croient pas, ok, bah, il y aura des langues que l'on comprendra pas, ils comprendront pas de toute façon. Et donc, c'est un appel à la maturité. Et le verset 20 de 1 Corinthiens 14 le dit très bien. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Donc on voit la relation avec Ésaïe 28. Ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés. Mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Donc il faut être innocent par rapport au mal. Mais il faut bien raisonner par rapport à ce qui est juste et ce qui est bien. Et donc la prophétie, les choses que l'on comprenne, valent mieux que les paroles que l'on comprenne pas. Bon, enfin, c'est une parenthèse parce que Paul utilise ce verset dans Ésaïe pour montrer la supériorité de la prophétie sur parler en langue. Je vais juste revenir quand même au verset 5 et 6. Thème cher à Ésaïe. Ce jour-là, l'Éternel, le maître de l'univers, sera lui-même une couronne majestueuse. Ce n'est pas Samarie, c'est l'Éternel qui est la couronne. Et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Il y aura toujours quelques-uns dans le peuple, toujours quelques-uns qui vont rester fidèles, tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament, et comme tout au long de l'histoire de l'Église, depuis 20 siècles. Parfois une petite minorité, mais toujours quelques-uns qui sont restés fidèles, le reste. Et ça, c'est un grand encouragement pour nous. Donc voilà, la première partie d'Ésaïe 28, c'était Éphraïm. Ces chapitres sont longs, je le sais. Maintenant, du verset 14 au 22, Jérusalem. Donc c'est le royaume du Sud. Et il commence en disant, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. » Autrement dit, il faut tirer des leçons de ce qui se passe à Samarie, la capitale d'Israël, du royaume du Nord. Donc, écoutez donc. Alors, je vais lire du verset 14 au verset 22. Écoutez donc la parole de l'Éternel, homme habitué à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. J'ai établi la droiture comme une règle, la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refuge de la fausseté. L'eau inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera supprimée. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Oui, il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul provoquera la terreur. Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. En effet, l'Éternel se lèvera comme sur la montagne de Peratsim. Il tremblera d'indignation comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange. Son œuvre étrange pour exécuter son travail inhabituel. Maintenant, ne faites pas les moqueurs, sinon votre situation empirera. La destruction de tout le pays est décidée. Je l'ai appris du Seigneur de l'Éternel, le maître de l'univers. Donc, si Samarie, c'était l'ivrognerie et l'orgueil, Jérusalem, c'est les moqueurs. Il n'y a rien de pire que les moqueurs. Psaume 1, je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs. Parce que les moqueurs ne prennent pas les choses au sérieux. Ils se basent sur quoi ? Verset 15 le dit, nous avons le fake news pour refuge, enfin c'est marqué fausseté, on va quand même le traduire comme ça, et le mensonge pour abri. Il se base sur ce qui n'est pas vrai, au point où ils disent, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous ne mourrons pas, on va se débrouiller. Parce qu'on a la fausseté et le mensonge avec nous. C'est terrible. Ils manquent de réalisme. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils pensent que on peut en quelque sorte se débrouiller pour faire passer ce qui est faux. Je ne dis pas que c'est partout. Mais on était très très frappés, on était donc en vacances à Malte la semaine dernière, tout petit pays, on passe devant des maisons où c'est marqué ministère de ceci, ministère de cela. Et à un certain moment, c'était ministère de la gestion de l'information. On a trouvé ça extraordinaire comme titre. Gestion de l'information. On va gérer ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire, etc. Donc voilà, le ministère de la gestion de l'information. C'est pas nouveau, hein. Là, c'était 2019, mais c'est déjà vrai, hein, mais Jérusalem, 700 ans avant Jésus. Et cette alliance avec la mort ne subsistera pas. C'est ce qu'il dit. Votre alliance avec la mort, verset 18, sera supprimée. Votre pacte avec le séjour de mort ne tiendra pas lorsque le torrent destructeur passera, vous écrasera. Donc ce sont les Assyriens, même si en fait, ils ont été délivrés, comme on va voir quelques chapitres plus loin, ce n'était que partie remise, parce que finalement ce sont les Babyloniens qui sont venus un siècle plus tard, parce qu'ils ne sont pas vraiment repentis au fond de leur cœur. Mais il y a toujours du positif dans ces versets. Et c'est surtout ce verset 16 et le début du verset 17 qui, si vous connaissez un petit peu le Nouveau Testament, il y a plusieurs versets qui font allusion à cela. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée, et celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. On a même chanté de sécurité tout à l'heure. Comme quoi le Seigneur dirige toujours nos cultes, un chant qui parlait de la sécurité. Certes, il y a aussi un psaume qui parle de ça, le psaume 118, verset 22, qui dit que cette pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Parce que les constructeurs, donc les responsables d'Israël, du peuple juif, ont rejeté cette pierre, mais elle est devenue quand même la pierre angulaire. Et donc avec plein de versets, bon, plein, il y en a trois au moins dans le Nouveau Testament, qui parlent de cette pierre qui est Jésus. Romains 9 et le verset 33. Ils se sont heurtés, Israël n'ont pas trouvé le salut parce qu'ils sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Et Paul après prie pour ses compatriotes, pour les Israéliens, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent croire en Jésus le Messie. Dans Éphésiens 2, et le verset 22. On dit que toute l'Église s'édifie sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, ce verset 20. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, c'est en lui que vous êtes, vous aussi, édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc c'est la pierre qui est Jésus. Et dans 1 Pierre 2, versets 4 à 6, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, et c'est Ésaïe 28, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Et celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. C'est étrange que dans Ésaïe 28, il y a déjà deux versets qui sont cités par Paul, une fois dans les Corinthiens, et puis dans Éphésiens, et puis par Pierre dans 1 Pierre. Maintenant, on arrive un peu à la conclusion. Et c'est cette troisième partie que j'ai trouvée extrêmement intéressante pour faire le lien entre cette partie historique et nous. C'est une parabole agricole. Et on peut poser la question, donc est-ce que la confiance en Dieu mène à la passivité? Bonne question. Je fais confiance à Dieu, est-ce que ça veut dire que je ne dois jamais faire quoi que ce soit? Est-ce que j'ai ma part dans la sanctification? Ou est-ce que je n'ai qu'à attendre et Dieu fera tout à ma place? Et c'est une réponse assez intéressante que nous allons lire pour conclure ce message. Je vais lire d'abord ces versets 23 à 29. Prêtez l'oreille et écoutez-moi. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure en vue des semailles, le fait-il constamment? Remue-t-il et pêche-t-il sans cesse son terrain? Après avoir aplani la surface du sol, n'y disperse-t-il pas de la nigelle et ne sème-t-il pas du cumin? Ne met-il pas le blé par rangée, l'orge à une place marquée, l'épeautre sous les bords? Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre et l'a instruit. On n'écrase pas la nigelle avec un traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec un bâton et le cumin avec une baguette. Par contre, on doit écraser le blé pour en faire du pain, on ne le bat pas indéfiniment, et si l'on fait passer la roue du chariot et les chevaux dessus, il n'est pas écrasé. Cela aussi vient de l'Éternel, le maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités du discernement. Incroyable ces versets. La clé, en fait, c'est les versets 26 et 29, pour dire « Dieu nous a enseigné ». Comme le verset 29, cela aussi vient de l'Éternel, le Maître de l'univers, il a distribué de merveilleux conseils et augmente les capacités du discernement. Les êtres humains ont appris à faire tout cela et nous sommes les bénéficiaires. D'abord, par exemple, au verset 23 et 26, le cultivateur cherche à comprendre comment adapter son travail selon chaque céréale pour avoir le meilleur rendement. Il cherche à comprendre et Dieu lui a donné l'intelligence pour comprendre. Donc, on ne laboure pas constamment, hein, certainement il faut s'arrêter, hein, sinon on laboure et puis on va planter. Et on met par exemple le blé en rangée. Mais on met apparemment, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas cultivateur, les pôtres aux abords, tout autour des champs. Il y a peut-être une raison pour ça, je ne connais pas. Mais les êtres humains ont compris cela, petit à petit. Et il dit que c'est Dieu qui a enseigné cela, non seulement à ceux qui sont croyants, mais à tous les êtres humains. De même, au verset 27 et 29, ils ont appris à tirer le meilleur profit de ces céréales. Donc, il fallait vraiment écraser le blé pour en faire ce qui était l'essentiel pour faire du pain. Et on n'avait pas peur de cela. La roue du chariot, les chevaux passent dessus, mais c'est bon. Alors qu'avec le cumin et la nigelle, c'est avec un bâton qu'on le faisait. Parce qu'autrement, on détruisait tout. Donc, l'homme a appris ça. On peut dire, peut-être pour nous, c'est une évidence. Mais on est les heureux bénéficiaires de tous ceux qui nous ont précédés. Parce que si, à votre naissance, on vous est laissé tout seul, en quelque sorte, dans une forêt ou dans les champs, est-ce que vous auriez su comment planter le blé, à quel moment il fallait le battre, qu'avec le blé on peut faire du pain en ajoutant ce qu'il faut. Marie se pose souvent cette question-là, mais comment ils ont appris qu'en prenant tel ou tel truc et en le mettant avec autre chose, comment on a appris qu'avec du sable on peut faire du verre? Bon, ça tombe pas sous le sens, mais les gens, petit à petit, les êtres humains ont appris à faire cela, mais avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Donc, quel est l'essentiel de cette parabole? C'est de dire, si on a appris l'intelligence pour des choses aussi terre à terre et aussi concrètes, il faut aussi apprendre à avoir une intelligence spirituelle. Et l'intelligence spirituelle, c'est comment en faire confiance à Dieu, à quel moment il faut quand même agir et pour faire quoi, sans aller faire alliance avec les Égyptiens. Il fallait peut-être protéger quand même la ville, il fallait quand même construire des murailles, mais ce n'était pas en construisant des murailles qu'il fallait dire maintenant que j'ai les murailles, non, et aussi la confiance en Dieu. C'était nécessaire. C'est Dieu qui a demandé à Néhémie et Esdras de construire les murailles. Mais ils ont dit, attention, ce n'est pas comme cela qu'on va résister aux Babyloniens si on ne fait pas confiance aussi. C'était le grand prédicateur britannique du 19e siècle, Spurgeon, qui disait toujours, hein, il avait, enfin, c'est une sorte de phrase qu'il prononçait souvent, il faut avoir la truelle dans la main droite et l'épée dans la main gauche, ou le contraire, je ne sais plus, parce qu'il fallait construire, mais il fallait aussi se défendre. La truelle et l'épée. L'épée et la truelle. Et donc, tout comme les êtres humains ont appris cela, la parabole nous dit, voilà, tout autant on réfléchit sur les choses matérielles de la vie, tout autant il faut réfléchir sur les choses spirituelles et utiliser l'intelligence. Et là encore, je me permets de le dire, parce que Marie, hier, dans l'avion, elle a parlé pendant tout le vol avec une Maltaise, en fait, qui vit en France, et qui disait que quand elle était petite, elle se posait beaucoup de questions sur la foi et personne n'avait les réponses, donc elle ne sait plus où est la vérité maintenant. Mais il faut qu'on réfléchisse. Et pour comprendre, ça fait partie. C'est pas évident de comprendre un chapitre comme le chapitre 28 d'Ésaïe. Mais il y a des choses dans la Bible qui sont tellement simples qu'un enfant puisse les comprendre en même temps. Donc, et ce qui m'a frappé, c'est que Jésus a enseigné dans ce même sens. On peut donner deux exemples. Dans Matthieu 16, les versets 2 et 3. Matthieu 16, les versets 2 et 3. Donc ce sont les pharisiens et les sadducéens qui viennent voir Jésus. Il leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Donc ils connaissaient bien la météo. Mais il fallait aussi comprendre les choses spirituellement. Et puis dans Luc 12, c'est 54 et 50 à 57, Jésus dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et c'est ce qui se passe. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Donc, c'est Jésus, Ésaïe, même combat. Il faut. C'est. Tout comme on passe notre vie à chercher à comprendre la vie, à comprendre ce qui se passe dans le monde, sur les choses tout simples comme les recettes de cuisine, comment cultiver des plantes, ou comment faire marcher un ordinateur, enfin, les logiciels à créer. Mais on doit aussi chercher à comprendre les choses spirituelles, à chercher ce qui est bien et ce qui est mal, à chercher ce qui plaît au Seigneur, ce qui ne lui plaît pas, à chercher à savoir dans quel temps on est, à comprendre la mentalité des gens autour de nous et comment on va pouvoir leur parler du Seigneur avec la mentalité qu'ils ont aujourd'hui. Tout ça, c'est le défi que le Seigneur nous lance à partir donc de cette parabole agricole dans Ésaïe chapitre 28. Donc, la conclusion, tout simplement, j'ai pris un verset dans les Proverbes, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. » Dans le domaine moral et spirituel, autant que dans le domaine pratique de tous les jours.